Les gens jouent un rôle important dans la conception, la réception et l'analyse des séries télé. Ils imposent aux créateurs des contraintes et permettent de constituer un auditoire fidèle, c'est le plaisir générique, compétent par une bonne compréhension des codes, exigeant, ils ont un horizon d'attente clair. Ils permettent aussi aux critiques d'étudier ces œuvres immenses, parfois des centaines d'heures de télévision pour une seule série, par des approches sémiotiques, structurelles, narratologiques, de réception. La question du genre en série télé est particulièrement complexe. Selon Daniel Aubry, je la cite, on peut identifier trois instances du genre. Le genre proprement télévisuel, tel que défini par le format, téléroman, sitcom, mini-série. Le genre dérivé de la tradition littéraire, comédie, mélodrame, tragédie. Et enfin, le sous-genre, comme le fantastique, le policier et la science-fiction, et qui emprunte à ces genres, provenant d'autres médias, une grande partie de ces conventions narratives, tout en les redynamisant. Donc, ces trois niveaux génériques doivent en effet être mis en perspective pour comprendre le fonctionnement des épisodes qui m'intéresseront aujourd'hui et que je définirai plus tard, les épisodes autonomes. À propos du genre télévisuel, Aubry propose une nomenclature des séries qu'elle classe entre les séries à épisodes fermés, à épisodes ouverts et les séries mixtes, et prenant en compte les spécificités locales. De son côté, Jean-Pierre Eskenazi parle de séries immobiles et de séries évolutives. Je vais toutefois adopter plutôt la typologie de Stéphane Benassi, emprunté à Noël Nel, qui me semble plus opératique ici, en particulier pour mon corpus, mais aussi parce qu'il permet de penser l'évolution des genres. Benassi utilise plus ou moins les mêmes critères formels et propose de nommer feuilleton canonique la forme fictionnelle narrative dont l'unité diégétique est fragmentée en plusieurs épisodes d'égale longueur, et série canonique la forme fictionnelle narrative dont chaque épisode possède sa propre unité diégétique et dont les héros ont les thèmes sont récurrents d'un épisode à l'autre. Puis il y a les cas d'hybridité, les séries feuilletonnantes qui ont une plus grande part de sérialité, et les feuilletons sérialisants qui ont une plus grande part de feuilletons. Ce sont en particulier ces formes hybrides qui m'intéresseront aujourd'hui, puisque cette hybridité est nécessaire, selon moi, à l'émergence d'épisodes autonomes tels que je les envisage. Selon moi, on peut classer The X-Files parmi les séries feuilletonnantes, alors que Buffy serait plutôt un feuilleton sérialisant. Mais donc, si la question du genre et de l'itération est fondamentale, l'étude de la formule et de la matrice qui les sous-tendent est incontournable. Selon Eskenazi, une formule est un ensemble de spécifications narratives qui déterminent un usage caractéristique d'un genre. Chaque formule représente une matrice capable d'engendrer des incarnations analogues d'un modèle générique particulier. Sa formule caractérise une série, mais ne la définit pas entièrement. Elle représente cependant une charpente très suggestive et permet de comprendre comment les séries déploient les structures narratives génériques d'une façon souvent originale. Les formules ont deux aspects. D'une part, une formule est attachée à un genre. D'autre part, elle développe et fixe des éléments qui lui sont particuliers. Pour plus de clarté, j'utiliserai le terme de formule pour tous les éléments d'ordre générique ou architectuel et matrice pour ceux qui sont propres à une série spécifique. Ainsi, Stéphane Benassi explique assez bien le fonctionnement de cette matrice. Chaque occurrence d'une série ou chaque épisode d'un feuilleton peut être considéré comme un objet unique et différent de tous ceux qui constituent l'ensemble dont il est issu, produit à partir d'une matrice, on pourrait aussi dire d'une trame ou d'un motif, initial, dont il est non pas une copie parfaite, mais une variation, dans le cas de la mise en série, ou une suite, dans le cas du feuilleton. Or, la transformation d'une matrice en épisode de feuilleton ou de série joue sur un ensemble de variations et d'invariants opposés pour les deux genres. Pour Noël Nel, la mise en feuilleton est une opération de dilatation et de complexification de la diégèse, un étirement syntagmatique du récit qui conserve l'écoulement inéluctable du temps. Benassi ajoute que cette mise en feuilleton permet la variation sémantique, temporelle et narrative, alors même qu'elle impose une stabilité spatiale et discursive. Du côté de la mise en série, ce sont les schémas narratifs, certains paramètres sémantiques, l'axiologie, l'idéologie, et temporels qui demeurent invariables, alors que les lieux, les milieux et le discours, figure, thème, motif, varient. Nous verrons un peu plus tard que cette complexification est importante pour créer un intérêt auprès du spectateur, mais aussi que l'hybridité série-feuilleton rend potentiellement instable tous les aspects de la matrice. Ensuite, il faut bien préciser que ces genres télévisuels ont une historicité. Dans les premiers moments de la télévision, on pouvait trouver surtout des séries pures, des feuilletons quotidiens, comme les soap opéras, et des séries anthologiques, comme Twilight Zone, etc. Même si dès les années 1950-1960, avec des séries comme Zorro ou Batman, on retrouve des marqueurs de feuilletons, comme les cliffhangers, qui font leur apparition et assurent une certaine évolution, mais c'est surtout un report de la scène finale au début de l'épisode suivant, qui reprend ensuite la matrice sérielle habituelle. C'est pas vraiment un feuilleton. On peut assez facilement écouter les épisodes séparément. Les producteurs étaient convaincus que le public ne parviendrait pas à suivre une intrigue feuilletonesque complexe à chaque semaine, qu'il ne se souviendrait pas de l'histoire d'un épisode à l'autre. Pour plusieurs spécialistes, dont Robert Thompson, c'est Hill Street Blues qui a tout changé en 81 en créant le genre de la série chorale et en démultipliant les possibilités de la série feuilletonesque. Donc, les séries hybrides des années 90. En 1987, Gene Roddenberry ramène la série Star Trek à la télévision qu'elle avait quittée 18 ans plus tôt pour exister surtout en films sérialisés entre-temps. C'est l'apparition de Star Trek The Next Generation qui met en scène un premier changement d'équipage ou, pour utiliser un terme plus près des études télésérielles, un changement d'ensemble cast, de distribution d'ensemble. Mine de rien, cette nouvelle mouture d'une série déjà canonique et culte marque le début d'une télévision de plus en plus autoréflexive et autonome. À peine 3 ans plus tard, en 90 donc, apparaît une autre série qui va ébranler, en particulier sur le plan formel, les séries fantastiques. Il s'agit de Twin Peaks, de David Lynch et Mark Frost. Essentiellement un feuilleton policier fantastique, Twin Peaks proposait une complexité narrative bien plus grande que ce que la télé offrait jusque-là, tout en jouant de l'humour, de l'ironie, du surréalisme, autant dans la mise en scène que dans les dialogues parfois absurdes et le jeu décalé des acteurs. C'est aussi l'occasion de mettre de l'avant les paradoxes et les contrastes de la culture américaine à travers cette rencontre entre le cliché de l'agent du FBI en provenance de la grande ville et la vie plus ou moins paisible et communautaire dans une small town USA. Une vie paisible qui dissimule bien mal les monstres qui peuplent les forêts, les inconscients et le voisinage. Autant sur le plan formel que thématique, Twin Peaks pave la voie à plusieurs séries qui naissent quelques années plus tard et qui auront une importance culturelle et formelle majeure. D'ailleurs, X-Files est réputé être un descendant direct de Twin Peaks. The X-Files est donc créé par un très jeune Chris Carter en 1993. La série originale s'étend sur 9 saisons, donc jusqu'en 2002, qui seront suivies de films et d'un retour sous la forme d'une mini-série à partir de 2016. Mais je ne m'intéresserai qu'aux 9 saisons originales. Pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne m'ont pas entendu en décembre dernier, en bref, The X-Files suit le travail de 2 agents du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, qui sont relégués au cas étrange et surnaturel. Ils parcourent tout le territoire américain pour enquêter sur des phénomènes étranges. Mulder étant convaincu de leur nature surnaturelle et Scully, médecin légiste, étant systématiquement sceptique. Il se retrouve également au cœur d'un complot gouvernemental ancien visant à dissimuler au public la présence d'extraterrestres sur Terre. Ce complot sera dévoilé très progressivement au fil des 9 saisons. C'est ce qui est d'ailleurs une grande innovation. La formule de la série emprunte donc à la fois aux policiers, son double récit, crime et enquête, au thriller politique, le dévoilement très progressif d'un complot des puissants, au fantastique, ses incertitudes épistémiques et son intérêt pour les différentes croyances, et à l'horreur, ses effets de surprise, de grotesque, de répulsion, de monstration. Sur le plan de sa matrice, The X-Files est une série feuilletonnante composée de 2 types d'épisodes, ceux qui sont autonomes et racontent une histoire, une enquête spécifique dans un lieu souvent unique. Ce sont les épisodes Stand Alone, ou comme les fans en sont venus à les nommer pour cette série, les épisodes Monster of the Week, le monstre de la semaine. Les épisodes qui sont plutôt dédiés à raconter la grande histoire de la conspiration sont souvent nommés Mid-Arc, désignant le macro-récit de la mythologie de la série. Ils forment entre le quart et la moitié des épisodes de chaque saison, avec une augmentation au fil des années. Pour Alain Carazé, et je le cite, la série a contribué à marquer définitivement le renouveau de la production des séries dramatiques avec sa narration partagée entre les loners et les épisodes de la mythologie. Elle a contribué à rendre l'écriture plus sophistiquée, ouvrant encore plus la porte à des séries totalement feuilletonnantes, c'est-à-dire reposant sur un grand mystère central, comme le fera Lost. Puis en 97, 4 ans après le début de The X-Files, qui est alors au sommet de sa popularité, apparaissent 2 séries basées sur des films plus ou moins marquants, Stargate SG-1, mais surtout Buffy the Vampire Slayer. Celle-ci est créée par Joss Whedon, suivant le film du même titre de 92 qu'il avait écrit, mais dont le résultat était moins que satisfaisant. Whedon travaillait alors comme scénariste sur des sitcoms et consultant sur plusieurs films. La série Buffy sera diffusée jusqu'en 2003, puis suivie d'une série de comics qui en poursuivront le récit. Buffy est construite à la fois comme une inversion du stéréotype de la jeune fille blonde victime des films d'horreur, devenant elle-même celle que craignent les monstres, mais aussi une série métaphorique sur le passage à l'âge adulte. La série suit les aventures d'une adolescente qui devient une jeune femme au fil des années, qui a été choisie par une puissance mystique pour défendre l'humanité contre les vampires et les monstres. Elle fréquente l'école secondaire, puis l'université, et s'entoure d'amis qui développent eux-mêmes des talents dans leur lutte contre les forces du mal, qui sont particulièrement concentrées sur leur petite ville de Californie, Sunnydale. La formule de la série repose donc, elle aussi, sur une hybridité générique importante. Elle inverse le schéma actantiel de l'horreur et du gothique, emprunte à l'épopée sa quête, ses monstres, ses dieux et son héroïsme, au mélodrame sa trame familiale et amoureuse, au bildungsroman son grand récit de passage et d'initiation à l'âge adulte, au high school shows ses lieux, mais aussi certains de ses tropes, au fantasy ses êtres surnaturels et ses pouvoirs magiques. Du côté de la matrice, contrairement à The X-Files, dans lequel le macro-récit se déploie sur toute la série, dans Buffy, chaque saison tourne autour d'un macro-récit qui se clôt plus ou moins dans l'épisode final de la saison par la victoire de Buffy. Mais ce macro-récit saisonnier n'occupe pas l'ensemble des épisodes ou de l'espace narratif. Une grande partie des épisodes sont clos et qualifiés de « Monster of the Week », reprenant le terme inventé pour The X-Files. Contrairement à The X-Files, dans lequel ces épisodes sont structurés comme des romans policiers, avec le récit du crime dans le prologue et le récit de l'enquête dans les quatre actes qui suivent le générique. Dans Buffy, l'héroïne attend rarement qu'un crime survienne, puisqu'on la voit patrouiller la ville et le cimetière dans le prologue. Elle rencontre alors un monstre quelconque qu'elle devra ensuite combattre au cours des quatre actes de l'épisode en cherchant de l'information à son sujet pour trouver ses points faibles. Donc, contrairement au récit policier traditionnel, elle va de l'avant et cherche les criminels avant même qu'ils commettent des crimes. Bien avant la feuilletonisation des séries de l'imaginaire, les séries anthologiques et les séries classiques proposaient déjà des épisodes clos avec des structures narratives, stylistiques et thématiques originales, et souvent métafictionnelles et intertextuelles pour les secondes dans les séries classiques. Pensons à Twilight Zone, d'une part, et à certains épisodes de Star Trek The Next Generation, en particulier les épisodes sur le holodeck ou avec Q, hein, par exemple, pour ceux qui connaissent bien Star Trek. Ces épisodes presque complètement fermés, au sens où il y a une résolution à la fin et qu'il y a peu de références aux épisodes de la série, s'inscrivent tout de même, pour la plupart, plus ou moins dans le macro-récit. Généralement, ils marquent une pause dans l'avancement de celui-ci, mais ils révèlent néanmoins de l'information déjà connue du public aux personnages, comme si la structure habituelle des épisodes empêchait la circulation d'informations à l'intérieur du personnel romanesque, pris dans trop de secrets, de trahisons, d'incapacité de communiquer, mais aussi dans leur rôle actantiel. L'innovation formelle et narrative joue donc un rôle narratif en soi. Tous ces épisodes, très souvent réussis et populaires, proposent de réfléchir à la narrativité des séries télé. Comment raconte-t-on en série, sans se répéter, en innovant, en disant quelque chose de neuf des personnages après de très nombreuses saisons et des dizaines d'heures de récits audiovisuels? La réponse semble être en variant les narrateurs, les structures, les cadres diégétiques, poreux ou redessinés, et les métalepses, les vitesses de narration, les mondes parallèles comme sources narratives, etc. Dans The X-Files, j'ai identifié 16 épisodes donc, que vous avez sur vos feuilles, répartis, donc je ne vais pas faire la liste, évidemment. J'ai identifié 16 épisodes répartis sur les 9 saisons, mais surtout concentrés sur les saisons 4 à 7, ce qui n'est pas si surprenant. Dans la section « Format, Bending and Meta Episode » de son article sur The X-Files, Juliette Harrison l'explique bien. « For its few years, the format of the show remained broadly stable. However, as the years went by, the creative team became more and more willing to play around with that format. » Producing a variety of weird, sometimes very meta, episodes. In order to bend a show's format, you have to have an established format in the first place. So there aren't any particularly notable format-bending episodes in season 1 and 2. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai marqué de toutes les séries qui intègrent ce genre d'épisodes. C'est jamais dans les premières saisons et jamais dans les dernières non plus qui doivent résoudre les grands méta-récits, les grands feuilletons. Donc, ils n'ont pas tellement le temps d'intégrer des épisodes autonomes. Sur le plan de la création, parmi ces épisodes autonomes que j'ai identifiés, il y en a seulement deux écrits et réalisés par Chris Carter, qui a tendance à surtout s'occuper des épisodes feuilletonesques, en mid-arc. Ces deux épisodes, par contre, de Postmodern Prometheus et Triangle, sont parmi les plus intéressants de la série, notamment sur le plan formel. Vince Gilligan, désormais, je vais y revenir un peu d'ailleurs, Vince Gilligan, désormais plus célèbre pour sa propre série, hein, Breaking Bad, est responsable du scénario de 7 de ces épisodes et David Duchovny en a fait 2. Parmi les épisodes de cette liste, la plupart apparaissent dans les palmarès des meilleurs épisodes de la série de plusieurs médias. Je ne résumerai pas tous les épisodes, vous les trouverez sur les feuilles, je me limiterai à en mentionner quelques-uns des plus notables à mon avis. En plus de Ice, il y a qui revient sur The Thing from Outer Space et de son remake The Thing par John Carpenter. Il y a Josie Chung's From Outer Space, dont le jeu sur les points de vue, la matérialité de l'image, le rapport à la fiction, à la vérité et au témoignage est particulièrement intéressant. Musings of a Cigarette Smoking Man, dont chaque acte adopte une époque et un style différent et offre une vision alternative, mais pas du tout crédible, de notre histoire et de la mythologie de la série. The Postmodern Prometheus, qui rend un très bel hommage visuel et plein de clins d'œil au Frankenstein de James Whale de 31. Bad Blood, qui confronte les narrations très divergentes de Mulder, les versions très divergentes de Mulder et Scully des mêmes événements. Triangle, qui parvient à faire un thriller d'espionnage nazi et marin en adoptant des plans-séquences de 7 minutes et des split-screens spectaculaires. X-Cops, qui va très loin dans son imitation de l'émission Cops sur le plan formel. Red Room, qui propose un temps narratif et discursif complexe, tous les personnages évoluant chronologiquement, à l'exception du personnage sur lequel est le focus narratif, qui progresse antichronologiquement avec le spectateur. Donc, ça, c'est pour X-Files. Dans Buffy, j'ai identifié 19 épisodes autonomes qui rompent plus ou moins radicalement, selon les cas, avec la matrice de la série. Je pense qu'il y en a quelques-uns d'autres que j'aurais pu ajouter, mais... situés surtout dans les saisons 3 à 6, pour les mêmes raisons que The X-Files. Alors que Joss Whedon écrit et réalise moins de 15% de tous les épisodes, c'est plus de 30% des épisodes autonomes spéciaux. Donc, contrairement à Chris Carter, lui, s'intéresse beaucoup à ce type d'épisode-là. C'est d'ailleurs Whedon qui écrit et réalise les meilleurs et les plus spectaculaires. Hush, un épisode presque entièrement sans parole. The Body, un épisode primé qui décrit les sentiments contradictoires d'engourdissement et d'hypersensibilité, mais aussi d'allongement et de raccourcissement temporel après avoir trouvé le cadavre d'un proche, donc qui est en hyper-réalisme. Once More With Feeling, adoptant les codes de la comédie musicale. Restless, qui se déroule dans les cauchemars des protagonistes, et Doppelgangland, qui joue sur le dédoublement des personnages dans un monde parallèle, créé dans un épisode précédent, The Wish, qui jouait, lui, sur le pouvoir de la fiction et son amorce What If. Mentionnons aussi le très réussi Conversations with Dead People, qui isole les personnages principaux les uns des autres et présente, en temps réel, des discussions qu'ils ont avec des personnages plus ou moins secondaires, selon les cas, déjà morts dans la série auparavant. Ou l'étrange Normal Again, qui se déroule en grande partie dans un hôpital psychiatrique où l'héroïne serait enfermée depuis plusieurs années et dont la finale remet en question l'existence même du monde fictionnel de la série. Donc, Daniel Oubry, des épisodes autonomes. Donc, Daniel Oubry explique, et je la cite, « La structuration mnémonique de la pensée et de l'expression pourrait très bien définir, avec l'avènement des médias audiovisuels, une opération métatextuelle qui aurait pour fonction de faire circuler des archétypes narratifs, structurés par les genres, d'un médium à l'autre, ou encore contribuer à une espèce de banque de motifs narratifs, qu'ils deviennent des stéréotypes ou non, à l'intérieur d'un même médium. » En étudiant ce corpus d'épisodes, j'ai identifié un certain nombre de tropes ou motifs que j'ai pu regrouper en une typologie des écarts à la matrice, sériels, donc des épisodes autonomes qui se répartissent en trois grandes catégories. La fictionnalité, la narrativité et la transtextualité. Dans la fictionnalité, il y a des distorsions temporelles, les boucles, les inversions, les retours en arrière, les accélérations et ralentissements. Les doubles et mondes parallèles, version altérée de la réalité habituelle de la série. Et les mondes fictionnels issus de rêves ou de l'inconscient. Ensuite, dans la catégorie narrativité, j'inclus les récits à point de vue multiples et les narrateurs non fiables, d'une part, et les métalepses, mis en abîme de la fiction, et narrateurs ou personnages omnipotents, d'autre part. Donc, qui créent la fiction eux-mêmes ou qui ont un impact sur le réel dans cette fiction-là. Finalement, la transtextualité comprend l'intertextualité, hein, les pastiches, hommages, citations, qui sont très nombreux, et l'architextualité, les ruptures ou hybridités génériques. Dans The X-Files, il y a une surreprésentation des catégories points de vue multiples et narrateurs non fiables, de même que celle de l'intertextualité, surtout les pastiches, et de l'architextualité, hein, l'hybridité générique. Alors que dans Buffy, c'est plutôt la fictionnalité avec les doubles et les mondes parallèles, et du côté de la narrativité, les personnages omnipotents qui créent ou altèrent le récit. Je n'aurai pas le temps de détailler, d'approfondir chacun des tropes que je propose, je vais plutôt m'arrêter sur deux, trois exemples. Du côté de la fictionnalité, le cas le plus commun de distorsion temporelle est la boucle ou time loops, ou plus couramment, Groundhog Day loops, en référence au film du même nom. Il s'agit d'épisodes dans lesquels un ou des personnages se retrouvent à vivre sans fin la même journée ou la même séquence temporelle plus ou moins longue jusqu'à apprendre une leçon ou trouver la solution. Parfois, les personnages sont conscients de cette boucle dès le début. Parfois, ils n'en prennent conscience qu'après de très nombreuses occurrences, à cause d'impressions de déjà-vu ou par d'autres personnages. Cette distorsion du temps du récit provoque aussi une distorsion du temps narratif qui est également pris dans une boucle. Cet exercice de style permet surtout d'explorer les possibles de la fiction, à l'image des jardins aux sentiers qui bifurquent de Borges, et il est une mise en abîme de la sérialité elle-même. Il permet d'épuiser les possibles fictionnels en explorant toutes les issues possibles à une intrigue, mais aussi de placer un des personnages principaux dans une situation sans issue et sans support extérieur, le forçant à expérimenter lui aussi avec les possibles pour trouver une issue, tout en lui donnant une certaine liberté à l'endroit des autres personnages qu'il n'a pas habituellement. Puisque la boucle recommencera, il n'y a a priori aucune conséquence aux actes commis, ce qui pousse souvent les personnages et les scénaristes à explorer des relations décalées par rapport à la matrice de la série, dans les relations amoureuses inattendues, relations employé-employeur qui bouleversées, client-vendeur, etc., et à explorer un aspect inhabituel de la vie ou de la personnalité du personnage, humour, quotidien, patience, etc. L'autre aspect formel qui résulte de ce trope est la nécessité d'une grande inventivité dans la mise en scène, les angles de caméra qui varient énormément pour que l'épisode ne soit pas ennuyant. Chaque répétition de la boucle devient un jeu des erreurs pour le spectateur. On peut trouver des exemples dans Twilight Zone, Star Trek The Next Generation, les Discovery, Stargate SG-1, Supernatural, Doctor Who, The Outer Limits, Fringe, Person of Interest. Donc, dans énormément de séries qui reprennent ce trope-là. Dans les deux séries qui m'intéressent, il s'agit des épisodes Monday dans The X-Files et Life Serial dans Buffy. La première place, Mulder dans une boucle de la pire journée de sa vie, hein, inondation causée par son lit d'eau qui explose, retard au travail, impossibilité à déposer un chèque à la banque, braquage de banque et mort dans une explosion dans le dit braquage. Mais c'est un personnage secondaire, la copine du braqueur, qui est en fait la victime et le témoin de la boucle, hein, parce que Mulder n'est pas conscient de cette boucle-là. À chaque répétition, elle tente de retenir son copain par la parole ou les actes, contacte le FBI, puis directement Mulder et Scully. Chaque jour, elle observe la banque exploser, seule consciente de la boucle. C'est par une impression de déjà-vu que Mulder finit par comprendre et à permettre à la femme de briser la boucle en entrant elle-même dans la banque, mais se faisant ainsi tuer par accident. Cet épisode nous donne accès au quotidien de Mulder, son rapport aux objets, à son appartement, aux tâches de la vie quotidienne, mais surtout il permet d'exposer la souffrance banale et aliénante d'une femme dans une situation abusive et répétitive, incapable de trouver la solution, malgré tous ses efforts et ses demandes à l'aide. Contrairement à d'autres exemples de ce type, aucun apprentissage n'est fait, personne n'en ressort grandi. Dans l'épisode de Buffy, il s'agit d'un des quatre actes de l'épisode donc Life Serial, dans lequel Buffy se cherche une vie après avoir été ressuscitée. Elle tente donc de devenir vendeuse dans la boutique de magie de ses amis, mais un personnage, Jonathan, lui jette un sort qui la place dans une boucle temporelle, la forçant à répéter à l'infini une séquence de quelques minutes, tant qu'une cliente qui veut une chose impossible n'est pas satisfaite. Comme c'est souvent le cas, cet épisode joue sur le trope sur le mode humoristique, critiquant au passage l'aliénation du travail répétitif, les relations humaines absurdes dans un contexte capitaliste, mais aussi la nécessité de l'inventivité et de l'imagination pour le personnage qui veut s'échapper et pour les scénaristes qui veulent épuiser les possibles. Du côté des doubles et des mondes parallèles, mais aussi des rêves et de l'inconscient, la rupture avec la matrice sérielle peut être plus ou moins importante et subtile. Certaines séries, notamment Buffy, comprend beaucoup d'exemples de ce type de décalage qui peut aller d'un changement de personnalité plus ou moins radical de tous les personnages, à cause d'un sortilège quelconque, The Wish, Halloween, Something Blue, Ben Candy, Superstar, à une altération complète du tissu de la réalité et de ses règles, Normal Again, Nightmares, Restless. Malgré la rupture qu'ils opèrent, ces mondes dédoublés nous rappellent la nature même de la fiction et des mondes parallèles infinis qu'elles génèrent. Si ce sont des épisodes clos, un spectateur qui ne connaît pas la matrice sérielle ne pourra en comprendre les enjeux ni les apprécier. Ces épisodes ne sont intéressants que par l'écart qu'ils opèrent. On ne peut comprendre l'étrangeté d'un vampire Willow ou d'un Jonathan Superstar si on ne connaît pas ces personnages, montrant bien qu'ils ne sont pas si autonomes que ça, malgré les apparences. D'ailleurs, Joss Whedon s'amuse à intégrer dans ses épisodes des indices sur l'intrigue des prochaines saisons, qui ne sont compris qu'à posteriori. Donc, il y en a qui continuent à essayer d'analyser certains de ces épisodes-là encore des années plus tard. Du côté de la narrativité, la question des narrateurs non fiables et de la multiplication des points de vue narratifs est intéressante surtout dans X-Files, puisqu'elle répond thématiquement et idéologiquement à toutes les conspirations, les complots, les témoignages douteux et doutés sur des phénomènes inexpliqués mis en scène dans la série. Le cas de Musings of a Cigarette Smoking Man est notable. Dans le prologue, on y voit l'homme à la cigarette qui espionne les Lone Gunmen, des informateurs de Mulder, adeptes de théories du complot, et qui les écoute, donc le Cigarette Smoking Man, les écoute raconter sa propre histoire à lui. Puis chaque acte est dédié à une époque ou un événement dans un style différent. L'assassinat de Kennedy, l'assassinat de Luther King, la découverte d'extraterrestres à Roswell. Puis chaque acte est dédié donc à cette époque-là, à cet événement-là. Or, rien n'indique que ces fragments, à la facture a priori réaliste, ne sont pas fiables. Il faut se souvenir qu'ils sont racontés par des adeptes du complot et correspondent sans doute au fantasme des trois hommes. D'ailleurs, l'épisode se termine sur l'homme à la cigarette qui décide de ne pas les assassiner, ce qui indique sans doute qu'ils sont assez loin de la réalité. L'autre cas intéressant est celui des épisodes adoptant le style Rashomon, nommé à partir du film de Kurosawa et désignant un récit raconté par plusieurs narrateurs non fiables qui se contredisent. C'est le cas de l'épisode El Mundo Gira, qui s'amuse à mettre en image de multiples versions de la même histoire sur la base d'un savoir narratif, mais surtout des croyances et du folklore, chacun voyant une attaque chimique ou un El Chupacabra, des extraterrestres ou des agents du FBI en combinaison. L'épisode Bad Blood propose une autre version très amusante et représentative des tensions et des différences de point de vue entre Mulder et Scully. Le prologue nous montre Mulder traquant un homme et le tuant avec un pieu avant de découvrir qu'il portait de fausses dents de vampire en plastique. En attendant le moment fatidique où Mulder devra faire son rapport, il demande à Scully de raconter l'histoire de son propre point de vue, puis il fait de même, tous les deux adoptant une mauvaise foi assez évidente. Les travers de l'un et l'autre sont exagérés jusqu'à la caricature. L'un apparaît la victime innocente de l'autre. Le physique des personnages secondaires diffère selon leur point de vue. C'est une critique de la valeur des témoignages qui sont toujours problématiques dans The X-Files, autant que la réalité qu'ils tentent de décrire, par ailleurs, mais aussi de la personnalité des personnages et de l'état de leur relation à ce point de l'histoire. La plupart des tropes présentées ici, notamment le style Rashomon, les boucles temporelles et les pastiches, sont très communs et apparaissent sous une forme ou une autre dans de nombreuses séries qui sont pourtant de genres très différents. Du sitcom au feuilleton de science-fiction, on peut avoir le même type d'épisode autonome. Donc, entre autres, cette boucle sérielle ou cet épisode Rashomon. Il montre que la sérialité de ces épisodes se joue dans les codes génériques, dans la répétition des séries entre elles, une forme d'exercice de style obligé qui relève de l'architecte du grand genre de la série télé. Ces épisodes autonomes sont souvent décrits comme étant des moments où les créateurs de séries s'amusent et expérimentent au-delà des contraintes imposées par la production d'une série télé populaire. Ce sont des épisodes de liberté formelle et narrative qu'ils se permettent. Par exemple, à propos de l'épisode de Postmodern Prometheus, le blogueur Ton Van Der Werf écrit Another from Carter, this time playing around with the show's film style and format. This was something the series did more and more often in its later seasons, and this is one of the first experiments. En effet, mais c'est parce que ces épisodes sont rares qu'ils sont possibles. À propos de l'épisode Triangle et des plans-séquences, des très longs plans-séquences, Chris Carter confiait à Alain Carazé, on avait fait cela pour la saison 6 à une époque où on avait gagné le droit de faire ce genre d'expérimentation. Je voulais dire gagner le droit auprès du producteur. Ça a été un travail de titan. D'ailleurs, ils ont tourné entièrement l'épisode sur le Queen Elizabeth, le navire Queen Elizabeth. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils représentent une rupture qu'ils sont intéressants. Une rupture avec une itération, dans une matrice assez souvent répétée pour devenir familière, autant pour les créateurs que pour le public. Ce sont des événements qui brisent le quotidien et qui ne sont donc possibles que dans les séries qui présentent un grand nombre d'épisodes par année. C'est parce que le public est déjà fan qu'il est prêt à suivre et qu'il pourra goûter la rupture, apprécier la folie et le décalage. Paradoxalement, si ces épisodes brisent la matrice des séries dans lesquelles elles sont insérées, matrice qui en fait normalement le succès, hein, on écoute une série parce qu'on aime sa matrice en général, ils sont souvent considérés comme les meilleurs épisodes par les fans, les critiques, les prix et les créateurs eux-mêmes. C'est le grand paradoxe, on aime les séries télé en partie à cause de leur répétition, de leur sérialité, du sentiment de familiarité formelle que celles-ci procurent, mais on aime encore plus lorsqu'elles en sortent à l'occasion. Monica Michelin se pose la question « In a double bind, how does contemporary TV fiction avoid the pitfalls of too obvious seriality? How does it disrupt linear progression, avoid repetition, renew its aesthetics of surprise? » Pour Vincent Jouve, qui s'arrête à la notion de séduction narrative avant de l'appliquer aux séries, l'intérêt que suscite un récit chez le lecteur dépend de l'inattendu, ou intérêt narratif, de la complexité, l'intérêt herméneutique, ou de l'intensité émotionnelle, la surprise, le suspense, la curiosité, qui sont causées par la proximité, l'improbabilité et la gradualité. Il ajoute que les séries, contrairement aux récits autonomes en général, ont la spécificité de permettre une grande familiarité avec les personnages, de se dérouler dans un temps non borné et d'être facile d'accès. Les épisodes autonomes se retrouvent avec un statut hybride. La série fournit la familiarité, hein, ce sont les mêmes personnages qui apparaissent et qui nous sont familiers, mais l'autonomie de l'épisode fournit de la complexité et un temps narratif clos, plutôt que réel. Tout en provoquant un certain effet d'inattendu sériel et une discrimination perçue comme un écart à la norme, aux habitudes du spectateur. Et puisque la télévision se construit historiquement et formellement si près de la vie quotidienne, des spectateurs qui la consomment dans leur foyer et quotidiennement, cette fascination s'explique. Il s'agit d'un événement, d'un bris de la répétition du quotidien des spectateurs eux-mêmes. À propos de la série Mission Impossible, Eskenazi écrit « La réussite narrative de la série est constitutivement attachée à une certaine ritualité sérielle. Elle est absolument nécessaire à la mise en valeur des enjeux de chacun des épisodes, car la régularité et même la platitude y ont une fonction très particulière. Elles autorisent les extravagances de l'accomplissement des missions. » Ce qui nous ramène au plaisir générique, créé par les attentes d'un genre ou au passage au second degré, selon Genette, ce moment où l'observance nécessaire, nécessairement consciente de la convention, se nuance d'un autopastiche plus ou moins ironique, ce qui peut donner le sentiment d'une transgression des normes, transgression qui les conforte en révélant à temps une fausse transgression. En conclusion, les épisodes autonomes, par leur décalage formel et narratif, placent les personnages dans un monde parallèle dans lequel un manque spectaculaire, un manque de son, de vie, de continuité, de temps, les sort de l'histoire, de leur parcours. Il y a de l'action, mais toujours inscrite dans une micro-quête, celle de l'épisode. Par contre, ces épisodes font malgré tout et malgré les apparences partie du feuilleton, du macro-récit, en ce qu'ils révèlent beaucoup d'informations et de savoirs sur l'intrigue, la psychologie des personnages, les structures sociales, impossibles à révéler dans le contexte habituel de la série, dont la grande majorité des épisodes doivent respecter la matrice. Ainsi, ces épisodes qui sortent de la matrice, à la fois celle du feuilleton et de la série, peuvent trouver une certaine liberté dans les corps. Merci.